Voilà, donc le 3 novembre, la troisième session du séminaire de Job, Bernard Potier fait son exposé.
Octobre.
3 octobre, oui. Je fais mon exposé sur Job 33-34. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais je le rappelle rapidement, c'est discours d'Eliou 32 à 37. Sont peut-être un texte interpolé, ça veut dire ajouté par la suite, intercalé, parce qu'on peut voir une continuité entre 31-40, fin des paroles de Job, et 38-1, Yahvé répond à Job. Eliou semble tomber du ciel, venir de nulle part, mais en fait, quand on lit les chapitres en question, on se rend compte qu'il a été présent aux discussions. Parce qu'il rappelle des paroles de Job, parce qu'il rappelle des paroles de ses trois amis. Eliou est plus jeune, son nom veut dire « Il est mon Dieu », Eli, lama sabachthani, mon Dieu, ou lui. Donc, il est mon Dieu. C'est un Israélite, on donne son ascendance, il vient de Juda, et donc, d'une certaine manière, il contraste aussi avec Job, qui est présenté comme un païen, et ses trois amis, sans doute, sont aussi des Édomites. Donc voilà, est-ce que ça voudrait dire que tout à coup, un sage ou un prophète israélien vient au milieu du jeu, il est plus jeune que les trois anciens, et il veut opposer à la sagesse qu'il trouve trop humaine des trois anciens, une inspiration divine qui donne l'intelligence. Alors cette inspiration divine, on peut la lire dans les versets suivants, 32-8, 32-13, 32-18 et 33-4. Donc voilà, il parle avec plus de passion, mais aussi plus d'inspiration, semble-t-il, que ses prédécesseurs. Alors, d'abord, il commence par dire à Job que lui aussi est un homme intègre, que lui aussi est un homme juste, verset 33-3, et qu'il est son égal, 33-6. Donc, ils ont le droit de se parler d'égal à égal, d'homme à homme. Donc, sur votre feuille de route, vous voyez que j'ai découpé le texte de cette manière-ci, verset 1 à 7, d'homme à homme. Donc, de quel lieu parle-t-il, Eliou ? Eh bien, il est l'égal de Job, il est aussi injuste. Et il va donc lui parler. La deuxième section, c'est la présomption de Job, selon Eliou, et que Dieu est toujours plus grand. Deus semper maior, ai-je indiqué sur votre feuille de route, ça veut dire Dieu est toujours plus grand. En effet, au verset 33-9, Job par quatre fois dit « Je suis pur, sans péché, innocent, sans faute ». Ce sont les quatre manières dont il exprime son innocence. Et bien ça, d'après Eliou, ce sont des paroles audacieuses. C'est en prétendant cela justement qu'il n'est pas juste, parce qu'il ne reconnaît pas que Dieu est plus grand. Verset 33-12. Dieu est plus grand. Il faut toujours considérer que Dieu est plus grand. On ne parle pas d'égal à égal avec Dieu. Ça, c'est l'erreur de Job, selon Eliou. 33-14, Eliou dit que Dieu parle de deux manières. Ces deux manières sont, pour résumer, la révélation, les songes, les visions, etc., versets 15 à 18. Et une seconde manière, c'est par la douleur, par la maladie, versets 19 à 22. Ce qui confirme bien que ce sont deux entités, je dirais, parallèles, c'est qu'elles se terminent toutes les deux par la question d'achever sa vie dans la fosse, dans le pourrissoir, shachat. Donc au verset 18, Dieu se révèle à l'homme dans le but de, semble-t-il, hein, épargner à son être le pourrissoir. Et puis il se révèle à l'homme par la douleur, par la maladie, aussi en vue de cet être, verset 22, qui s'approche du pourrissoir. Est-ce que cette douleur, cette maladie est une punition ? Eh bien, en effet, c'est ce que suggèrent les traductions de Jérusalem et de la Tobe, au verset 19, en parlant de correction et de réprimande. Moi, je le vois plus comme, eh bien, la maladie donne un message sur la finitude. En voyant la traduction de Chouraki qui dit « exhorter » au lieu de « corriger » ou « réprimander ». Il semble que les deux interprétations sont possibles, mais je préfère donc la celle qui est plus neutre, qui n'induit pas l'idée que cette douleur est causée par un châtiment. Et donc les deux manières dont Dieu se révèle, je crois que c'est cohérent avec la suite qu'on verra, c'est par la révélation, un peu surnaturelle des visions, etc., mais aussi par la finitude de l'homme. L'homme fini se rend compte que Dieu est plus grand que lui. Et ça lui impose une certaine conduite vis-à-vis de sa vie finie, et entre autres, éventuellement malade et malheureuse. Intervient ensuite, c'est la quatrième section de ce chapitre 33 selon moi, l'ange. Un ange, un messager, qui est médiateur. Ça court des versets 23 au verset 33, donc toute la fin de ce chapitre. Alors cet ange, il est décrit d'abord au verset 23, 24, 25. Et puis il intercède réellement au verset 26, 27, 28. Ça c'est l'interprétation que j'ai défendue, mais Bénédicte dans la discussion du sous-groupe propose une autre interprétation, c'est que 26, 27, 28 soit attribué à celui pour qui l'ange a intercédé, mais l'ange a intercédé pour qu'il reconnaisse sa faute, hein, et qu'il supplie donc Dieu de lui pardonner comme il est dit au verset 27. Donc voilà, apparition d'un ange qui intercède et qui invite l'homme à avouer. Avouer quoi ? Avouer sa faute, que Dieu est capable de pardonner et donc de racheter son être, sa vie, son âme à la fosse, au pourrissoir, afin que sa vie voie la lumière. 33, 28. La question de l'aveu est très importante. Qu'est-ce qu'il doit avouer ? Parce que Job, justement, depuis le début, dit qu'il n'a rien à avouer, il n'a aucun péché à avouer. Alors on l'invite à avouer quoi ? Eh bien, Eliou, je pense, l'invite à avouer la grandeur de Dieu et sa petitesse. Et c'est un aveu non pas moral, mais un aveu, comme j'essaie de dire, métaphysique ou mystique ou religieux, je ne sais pas, de la transcendance de Dieu devant notre finitude. Mais moyennant cet aveu, eh bien, il y a vraiment un espoir pour celui qui en passe par là. Au verset 29 à 33, eh bien, il est mis quand même clairement que Dieu est capable de nous faire revenir du pourrissoir et d'illuminer notre vie. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on n'y a pas été, qu'on a été au tombeau, mais qu'on en revient et qu'on revoit de nouveau la lumière des vivants. C'est vrai que toute l'interprétation chrétienne a souvent puisé dans Job des arguments en faveur d'une théologie de la résurrection. Voilà, ça c'était un petit résumé de ce que je voulais vous dire à propos du chapitre 33. Alors le chapitre 34, que nous avons lu beaucoup plus vite, je l'ai divisé également en quatre sections. Alors il me semble que c'est Elio qui parle d'un bout à l'autre, c'est son deuxième grand discours. Alors ça ne l'empêche pas de rapporter parfois des paroles de Job, mais ce n'est pas Job qui intervient dans le discours, hein. Ce sont des paroles de Job que Éliou rapporte. Et d'ailleurs, si on va chercher dans les chapitres précédents, on peut retrouver ces paroles, par exemple en 27, 2 à 6, on retrouve des paroles de Job que Éliou reprend ici. Oui, je fais une petite parenthèse parce que je vois que j'ai oublié quelque chose. L'ange dont on parle en 33-23, l'ange dont on parle en 33-23, il est déjà auguré, si on veut, hein, entrevu en 16-19 comme le témoin et en 19-25 comme le Goël, hein, comme le rédempteur. 16-19 et 19-25 sont à mettre en parallèle avec 33-23. Voilà, je ne veux pas trop jouer au bottin téléphonique, parce que surtout pour ceux qui écoutent l'enregistrement, ce n'est pas facile. Mais j'essaie quand même de donner les nombres, hein, parce que ça peut être important. Je reprends mon propos, le chapitre 34. Donc c'est le deuxième grand discours d'Éliou, et il s'adresse cette fois-ci aux sages. Non plus à Job, 33.1, mais au sage, 34.2. Cependant, bien sûr, par ricochet, il parle à Job, puisque Job est de nouveau évoqué au verset 5, au verset 7, etc. Au verset 35, 36 également. Donc il s'adresse aux sages et il leur dit « Essayons de bien juger les choses ». Job a fait des erreurs en parole et en acte. En parole, ça c'est ta pile qui tu peux couper peut-être. En parole, ce sont les versets 5 et 6, 34, 5 et 6. Job dit « Je suis juste et Dieu me dénie justice. Et quand je cherche justice, je passe pour un menteur. » Donc on se trouve dans un dilemme, hein. Ou bien c'est Job qui dit la vérité, dans ce cas-là Dieu est menteur, ou bien c'est Dieu qui a raison, et alors c'est Job qui est menteur. Mais depuis le début, Job prétend qu'en effet il n'a pas péché. Donc que va-t-on faire avec ce dilemme, hein? C'est ou bien Dieu, ou bien Job. Alors vraiment, verset 7, qui est un peu difficile parce que c'est une expression sans doute idiomatique, une expression régionale de l'époque. Job boit le sarcasme comme de l'eau. Ben, ça veut dire que Job est capable de raconter des bêtises tous les jours, comme on boit de l'eau. Ben, lui, il raconte des choses blasphématoires, des moqueries, des sarcasmes comme de l'eau. Hein. Et évidemment, dire que Dieu est menteur, ben, c'est un blasphème. Donc dans l'idée de Éliou, rapporter cette parole « J'ai raison contre Dieu, c'est Dieu qui ment et moi j'ai raison », c'est évidemment un grand blasphème. Et il dit ça tous les jours, donc comme de l'eau, comme on boit de l'eau. Quoi. Mais en réalité, versets 8 et 9, Job, selon Éliou, est vraiment l'ami des méchants. Hein, et il déclare « Il n'y a aucun bénéfice à être l'ami de Dieu ». Verset 9. Versets 10 à 30, Éliou entreprend la défense de Dieu. Puisqu'on traite Dieu de menteur, eh bien lui va prendre la défense de Dieu. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je dirais que Dieu est défendu de cette triple manière. Dieu est le créateur de la vie. S'il est le créateur de la vie, comment s'amuserait-il à rendre les hommes malades et mourants et à les envoyer au pourrissoir? Ce n'est pas possible. Il est le Dieu de la vie. Il donne la vie. Et d'ailleurs, il y a quelques beaux versets là. Hein, les versets 14 et 15. 34, 14 et 15. La création, c'est Dieu qui donne son souffle. S'il retire son souffle, eh bien, cette créature cesse d'être vivante. Et donc, comment Dieu s'amuserait-il donc à faire mourir les gens s'il leur a donné le souffle de vie? Sa création est bonne. Il y a là un peu toute une théologie de la création en miniature, une nouchée, hein, pour dire que voilà, Dieu ne peut pas tourmenter l'homme inutilement, puisqu'il lui a donné la vie. De plus, il est le créateur du droit. Verset 17, 18, comment peut-on dire à celui qui a fait le droit, tu vas contre le droit. Il est un juste juge. Ce sont les versets 17 à 25, me semble-t-il. 17 à 25, Dieu ne regarde pas si on est riche ou pauvre, il ne regarde pas si on est un roi ou si on est un misérable, il respecte le droit. Et même, et ça c'est déjà intéressant, versets 26 à 30, il prend un soin spécial des pauvres et des malheureux qui sont justement souvent opprimés par les grands et les tyrans. Donc non seulement il essaie d'être équitable entre les riches et les pauvres, mais, disons, au-delà de cette équité, il prend un soin particulier du pauvre qui est souvent opprimé justement par le tyran, etc. Voilà donc une défense de Dieu, une théodicée. Vous savez que le mot théodicée veut dire jugement, hein, de Dieu, procès de Dieu. Eh bien, la théodicée, c'est cette branche de la philosophie inventée par Leibniz, hein, qui prend la défense de Dieu contre les accusations. Dieu a fait un monde mauvais. Non, Dieu a fait le meilleur des mondes. Leibniz. Dieu a fait le meilleur des mondes. Au moins, en tout cas, quand on fait l'intégrale, puisqu'il est l'inventeur des intégrales, hein, quand on fait l'intégrale de tous les biens et de tous les maux, eh bien, il y a plus de bien que de mal, et même, c'est le bien le meilleur possible. Saint Thomas d'Aquin ne disait pas ça. Hein. Il disait qu'il y avait toujours moyen de faire un monde meilleur ou un monde moins bon, mais que de toute façon, il y aurait toujours du bien. Voilà. Et que Dieu était le créateur du bien, quel que soit ce degré de bien. Voilà, donc avec ça, je suis arrivé au verset 30. Alors vient encore une question fort importante. Éliou invite Job à l'aveu, à avouer sa faute. À avouer sa faute, et même s'il ne la connaît pas, eh bien qu'il ait cette humilité devant le Dieu transcendant de dire « Enseigne-moi la faute que j'ai faite. » Et même si je ne la vois pas, eh bien, je crois que tu peux me la montrer et je cesserai de commettre cette faute. Donc, il faut demander pardon non seulement pour les fautes dont on a conscience, et Job n'a conscience d'aucune faute, mais même il faut demander pardon des fautes qu'on aurait faites inconsciemment. Et je pense qu'en faisant cela, il passe un petit peu à une autre conception de la faute, qui est non plus morale, mais qui est, comme je disais, un mystique, métaphysique, ou je ne sais pas quoi, en faisant référence au verset 33-27. Eh bien, il doit avouer que Dieu est plus grand, et que lui est petit, et qu'il est terrestre, et qu'il ne peut pas comprendre les desseins de Dieu, et qu'il doit choisir, hein, pour Dieu contre lui-même. C'est le sens du verset 33, je crois, 34-33, où c'est assez difficile à comprendre aussi. Hein. Selon toi, Dieu devrait-il punir? Je sais que tu t'en moques. Ainsi en as-tu décidé, toi, Job, de te moquer de Dieu, mais pas moi. Moi, je ne décide de ne pas me moquer de Dieu. Dis quand même ce que tu en sais, si tu veux, mais moi j'ai décidé, hein, de ne pas me moquer de Dieu et de ne pas l'accuser d'être un menteur, et je t'invite à faire de même. C'est le sens du verset 34-33, je pense. Alors il termine en... verset 31-32-33, c'est l'invitation de Éliou à Job à avouer quelque chose, à ne pas rester sur cette position « je suis sans faute et Dieu ne me fait pas justice ». Qu'ils disent quoi ? Eh bien, qu'ils disent « j'ai fait une faute » ou qu'ils disent « je n'ai pas fait de faute, mais j'en ai peut-être fait inconsciemment quand même hein ». ou qu'ils disent « je n'ai pas fait de faute, mais Dieu est plus grand et je n'ai pas à comprendre pourquoi je suis dans cette situation actuelle, parce que je dois respecter cette grandeur de Dieu, Dieu est toujours plus grand que moi. » Les trois derniers versets, 34, 35, 36, 37, soulignent l'obstination de Job selon Éliou. Voilà, Job parle sans connaître, il sera examiné, il sera reconnu, il ajoute à ses fautes, etc. Et Dieu aura le dernier mot.